Badania europejskie.
Rozumiem tu Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromi tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Bonjour, bienvenue au Carrefour d'Europe, bienvenue à Anguin. Tout près de Paris, nous avons posé nos micros à l'occasion des entretiens européens d'Anguin, organisés par l'IRIS. L'IRIS, c'est l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Bonjour Pascal Boniface.
Bonjour Daniel.
Vous êtes le directeur de l'IRIS et vous avez choisi pour thème de ces rencontres l'Europe dans la tourmente. Est-ce à dire que vous n'aviez pas anticipé l'élection d'Emmanuel Macron qui a redonné des couleurs à l'Europe, on peut le dire?
Moi, effectivement, comme beaucoup, je ne l'avais pas anticipé, mais en même temps, même si les milieux européens sont rassurés par son élection, rien n'est réglé. Donc, il y a moins de pessimisme qu'il y a quelques semaines, mais en même temps, il faut encore toujours beaucoup de volonté pour avancer.
Il y a toujours des problèmes.
Oui, effectivement, il n'y a pas de baguette magique, que ce soit pour Emmanuel Macron ou pour tout autre. Et donc, on peut être effectivement plus optimiste si on est européen et pro-européen. Mais une fois encore, les chantiers sont nombreux et la tourmente existe toujours.
En tout cas, après avoir vécu des moments critiques avec le nouveau président français, l'Europe reprend espoir. L'échec de l'extrême droite française après celui de Norbert Hofert en Autriche et celui de Geert Wilders aux Pays-Bas stoppe pour le moment, en tout cas, la vague populiste sur le continent. Mais il reste à l'Union européenne à regagner en crédibilité auprès des Européens. Et pour cela, l'Europe doit être plus protectrice, comme le rappelle sans cesse le nouveau président français, afin de réconcilier les citoyens avec la mondialisation. Ce n'est pas le moindre de ces nouveaux défis, et c'est loin d'être le seul. Je vous présente nos deux autres invités. Bonjour Nicolas Dungan.
Bonjour.
Vous êtes Senior Fellow au sein du programme des relations transatlantiques de l'Atlantic Council à Washington DC. En deux mots, ce Conseil de l'Atlantique, on va dire en français.
C'est un think tank, donc un institut de recherche en relations internationales, comme l'IRIS à Paris.
Et vous êtes basé à Paris.
Oui.
Nicolas Tenzer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président du Centre d'études et de réflexion pour l'action politique et vous êtes par ailleurs professeur à Sciences Po. Alors avant d'entrer dans le vif de notre débat, j'aimerais que nous fassions un détour par la rédaction de Courrier International. Bonjour Corentin Pénard-Guéard.
Bonjour Daniel.
C'est peu dire que la presse européenne a salué l'élection du nouveau président français.
Eh bien, après le grand ouf de soulagement qu'elle a poussé au lendemain de la victoire d'Emmanuel Macron, la presse européenne, eh bien, elle veut profiter de cette dynamique pour entamer des réformes nécessaires à l'Union européenne. Alors, c'est le cas surtout au sud de l'Europe, hein. En Espagne, par exemple, El Mundo parle d'une remontada de l'Union européenne dans les cœurs, dont il faut profiter pour s'améliorer. Alors, d'après le journal espagnol, l'UE peut maintenant faire en sorte de ne plus être le bouc émissaire idéal des populistes en demandant tout simplement moins d'austérité et en posant moins de contraintes aux peuples européens. Alors pour El Mundo, ces réformes, elles doivent se produire dans les années, voire les mois qui viennent, le plus rapidement possible, et au moins elles vont pouvoir se faire sans la pression d'un possible anéantissement de l'UE, et avec des chefs d'État qui parlent à peu près tous la même langue pro-européenne. C'est d'ailleurs ce que dit aussi le journal Die Welt en Allemagne, hein, qui appelle Angela Merkel à aider Emmanuel Macron à réussir ses réformes de l'Union européenne. Et pour le quotidien allemand, la zone euro voulue par Berlin, avec une grande rigueur budgétaire, c'est un échec, et surtout dans le sud de l'Europe et pour la jeunesse européenne. Et donc, d'après lui, il est temps de lâcher un petit peu la bride côté allemand.
Alors, certains éditorialistes, certains journaux sont quand même un peu moins macronphiles, on peut dire comme ça, je crois, maintenant.
Oui, on peut dire ça, hein, surtout en Allemagne aussi. Hein. D'ailleurs, le Manager Magazine, qui fait partie du groupe du Spiegel, a par exemple titré un article cette semaine « Erasmus pour tous, d'accord, mais pas d'euro-obligation ». C'est une manière de dire oui à certaines réformes sociales au niveau européen, mais prudence sur les réformes économiques. Manager et Magazine estime que des mesures comme la mise en place d'une police européenne des frontières ou un programme européen de la défense peuvent plaire aux libéraux et voir le jour assez rapidement. Par contre, d'après le journal allemand, la crainte de Berlin d'avoir à dépenser plus d'argent pour les autres, eh bien, elle va fortement freiner toutes les réformes économiques envisagées par Macron et notamment la création d'un budget de la zone euro.
Pascal Boniface, est-ce qu'on peut dire que le deuxième tour de cette élection présidentielle, ça a été un référendum sur l'Europe ?
Oui, effectivement, et d'ailleurs qui s'est exprimé de façon différente que le premier tour. Parce que lorsqu'on regarde le premier tour des élections présidentielles en France, les pré-candidats qui avaient des réticences, voire de l'hostilité à l'égard de la construction européenne, ou du moins de la façon dont elle se fait aujourd'hui, ont été majoritaires. Mais effectivement, il y avait pas seulement en fait un référendum sur l'Europe, c'était un référendum sur l'ouverture de la France au monde extérieur. Est-ce qu'on prenait le repli sur soi, la fermeture des frontières, ou l'ouverture de la France non seulement à l'Europe, mais au monde d'un certain côté? Et donc la réponse a été tranchée, mais je pense qu'il est important de ne pas oublier le signal du premier tour, parce qu'il a été envoyé prévoyez, et que si l'on veut ne pas de nouveau avoir des sueurs froides en 2022, eh bien il faut peut-être parler à ceux qui ont émis des votes que l'on peut qualifier rapidement peut-être et de façon sommaire d'anti-européens, mais en tout cas qui peuvent être vécus comme tels. Donc on est rassuré, mais on n'est pas tout à fait guéri. Et donc, il faut quand même tenir compte du vote du premier tour et ne pas uniquement voir le vote du second tour.
Alors, Nicolas Tanzer, on comprend à l'écoute de cette petite revue de la presse concoctée par Courrier International et Corentin Pénarguerre que l'arrivée d'Emmanuel Macron, c'est évidemment, elle est globalement bien vue, mais qu'au-delà d'un moment de griserie, il va falloir concrétiser. Une hirondelle Emmanuel Macron ne fait pas le printemps.
Bien sûr. C'est-à-dire que, bon, moi, ce que j'ai vu, en tout cas, dans les semaines qui précédaient, où je me suis rendu à l'étranger proche, en trois semaines, trois reprises, en voyant des gens de 25 pays, c'est qu'il y avait un espoir extraordinaire, et bien sûr, à l'époque, une crainte aussi très forte. Là, c'est le soulagement. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans un monde où vous avez quand même un certain nombre de défis majeurs? Vous avez, on y reviendra peut-être, quand même, la menace russe à nos frontières. Vous avez le Brexit avec ses effets à long terme, non seulement sur le Royaume-Uni, mais sur l'environnement. Vous avez les incertitudes majeures de la présidence Trump, dont on ne voit absolument pas quelle ligne, finalement, de politique étrangère va prévaloir. Et puis, vous avez quand même, au sein de l'Europe, ces facteurs centrifuges qui sont très importants. Facteurs centrifuges, bien sûr, sur le plan économique, avec des très grandes inégalités, ce qu'on appelle des asymétries, je veux dire, dans le langage économique, mais asymétries sur les valeurs, ce qu'Emmanuel Macron, d'ailleurs, a rappelé, avec des pays comme la Hongrie ou la Pologne, peut-être même d'autres, qui sont de plus en plus éloignés des valeurs européennes, du modèle européen, et puis aussi des intérêts extraordinairement divergents. Par exemple, si on voit par exemple la crise des migrants, des réfugiés plus exactement, ce sont des facteurs qui ont désuni très fortement l'Europe, et on voit pas comment les discordances qui existent sur un sujet aussi important, mais qui est un vrai test pour les valeurs européennes, comment ces discordances vont se résoudre.
Voilà. On va revenir sur tous ces sujets, mais Nicolas Dingane, que représente pour les États-Unis cette élection d'Emmanuel Macron? Alors nous, on n'avait pas vraiment vu l'élection de Donald Trump arriver. J'imagine que les Américains n'avaient pas non plus vu Emmanuel Macron. Peut-être qu'ils sont seulement en train de le découvrir.
On m'avait posé la question de savoir pourquoi il y a eu Trump, et puis le Brexit, et puis en France, il y a eu ce barrage à l'obscurantisme, et j'ai dit c'est parce qu'il y avait Emmanuel Macron. C'est parce que les Français imaginent l'homme providentiel comme le général de Gaulle, mais l'homme providentiel, en l'occurrence, c'est bel et bien Emmanuel Macron, parce qu'il était là. Et parce que, non seulement, comme je l'ai écrit d'ailleurs pour l'Atlantic Council, c'est quelqu'un qui représente le retour en force des idées des Lumières, mais aussi parce qu'il a un très fort sens de la réalité. Donc, aux États-Unis, je pense que ça a été un soulagement pour les deux côtes, la côte ouest et la côte est, où il y a les gens qui partagent les valeurs européennes, qui sont les bien-pensants. Ça n'a probablement pas été très bien accueilli par les soutiens de Trump, mais on commence à s'en soucier de moins en moins.
Pascal Boniface, alors, que change l'arrivée d'Emmanuel Macron sur la scène européenne? Vous l'avez expliqué, évidemment une embellie, une certaine griserie, mais les problèmes demeurent. Par quoi on peut aborder ces problèmes et comment Emmanuel Macron peut-il aborder ces problèmes? On a évidemment tous été frappés par son premier voyage à Berlin, un accueil pour le moins chaleureux de la chancelière Angela Merkel.
Oui, alors c'est vrai que le voyage à Berlin est devenu une sorte de grand classique.
Mais il se passe toujours moins bien.
Le président élu, il se passe toujours pas mal, parce qu'on va pas se disputer. Et effectivement, je pense qu'au-delà du fait que tous les Européens ont été rassurés, enfin ceux qui sont attachés à la construction européenne, par l'élection d'Emmanuel Macron et par le refus de voir Marine Le Pen faire un score plus... Il faut pas se rassurer de dire qu'il n'y en a eu que plus de 34%, mais on lui dirait 40% peu avant. Donc on est rassuré. Alors qu'est-ce que ça signifie aussi? Je crois qu'il y en a élément que l'on a aussi peut-être pas suffisamment commenté, c'est que Emmanuel Macron est optimiste. Il donne une image d'optimisme, alors que la France est un pays qui est profondément pessimiste, puisque plusieurs enquêtes d'opinion montrent que le pessimisme en France est plus important que chez les Français, que chez les Afghans ou les Irakiens, ce qui est quand même paradoxal. Donc ça peut redémarrer en avant. Là, je pense qu'il y a ce qu'on appelle traditionnellement une fenêtre d'opportunité entre la France et l'Allemagne. Parce que l'Allemagne commence un peu à s'inquiéter du champ sur le fait qu'elle veut dominer l'Europe, champ d'ailleurs entonné aussi bien moins par Trump que par d'autres Européens. Et là, la France peut offrir une alternative pour dire non, on peut repartir ensemble. Avec le Brexit, qui est un autre défi, la France devient le seul membre permanent du Conseil de sécurité, membre de l'Union européenne. Et donc, bien sûr, si économiquement elle est moins vaillante que l'Allemagne, elle est stratégiquement plus mobile, plus puissante. Et là, il peut y avoir une sorte d'équilibre, dans le déséquilibre entre la France et l'Allemagne, si les deux partenaires sont d'accord pour relancer la machine, pour relancer ensemble. Or, on l'a bien vu dans le passé que rien ne pouvait vraiment fonctionner, être initié en Europe s'il n'y avait pas ce couple franco-allemand qui a battu de l'aile. Qui a battu de l'aile parce que l'Allemagne a un peu regardé vers Londres et que nous-mêmes, on était un petit peu centrés sur nous-mêmes. Donc là, ça peut repartir. Il faut quand même que Madame Merkel, qui demande à la France de se réformer économiquement, Emmanuel Macron s'y est engagé et à faire des réformes qui seront bienvenues et bien vues en Allemagne. Mais il faut peut-être aussi, en échange de cela, pour revenir à mon intervention initiale, écouter le message du premier tour et peut-être diminuer un peu, desserrer la ceinture de l'austérité pour faire en sorte que le sentiment qu'il y a des gagnants de l'Europe et des perdants diminue et que, en tous les cas, le nombre de gens qui pensent qu'ils sont perdants dans la construction européenne diminue parce que sinon, l'euphorie d'aujourd'hui va vite se transformer en, passez-moi l'expression, en gueule de bois.
Quels sont les défis de l'Europe après les élections d'Emmanuel Macron? J'ai posé la question à Guy Verhofstadt. Il est ancien premier ministre belge. Il est aujourd'hui président du groupe ADLE. Ce sont, on va dire, les centristes du Parlement européen. Guy Verhofstadt.
C'est de faire fonctionner l'Union européenne d'une autre manière, parce que la réalité d'aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'Union. L'Union européenne, en vérité, c'est une sorte de confédération d'États-nations et surtout dominée par la règle de l'unanimité. Et la conséquence de ça est que l'Europe réagit beaucoup trop tard et est beaucoup trop faible envers les défis d'aujourd'hui. Et les défis sont multiples. Il y a la faiblesse au niveau international de l'Europe. Il y a le problème des réfugiés, les flux migratoires, les conséquences encore de la crise financière. Et donc, le vrai défi de l'Europe pour le moment, c'est de faire évoluer cette confédération vers une vraie Union européenne avec un gouvernement européen capable de répondre efficacement aux défis d'aujourd'hui. Et ce que j'espère, c'est que Emmanuel Macron, qui a ses idées, les mêmes idées, sera capable de les faire avancer dans l'Union.
Nicolas Nungen, vous aviez envie de réagir à l'écoute de Guy Verhofstadt.
Parce que l'existence de l'Union européenne ne dépend pas seulement de considérations morales ou structurelles, mais aussi de considérations pratiques. Et moi, j'ai écrit il y a un an dans The World Today, qui est le bimensuel de Chatham House, donc l'Institut Royal des Relations Internationales à Londres, que l'Europe a besoin de politique. On parle beaucoup de l'Europe de la défense, mais ça, c'est un travail de longue haleine. Mais si l'Europe avait une politique énergétique, une politique numérique, une politique méditerranéenne, une politique en vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis de l'Ukraine, sa place dans le monde serait beaucoup plus forte, juste du fait d'avoir des politiques unies sur des questions fondamentales, comme si l'Europe était un gouvernement. Je pense que si on avait des projets qui faisaient que l'Europe aille de l'avant et ne reste pas sur ce qu'elle représente comme valeur et comme solution à des problèmes historiques, la paix versus la guerre, mais si l'Europe prenait position en faveur de ces valeurs et les mettait en œuvre, à ce moment-là, le sentiment de l'Union serait beaucoup plus évolué et on n'aurait pas besoin d'en rester à des questions structurelles ou morales.
Nicolas Tenzer, ce que vient de dire Nicolas Duncan, c'est pour l'Europe, moins de règles, moins de normes et un peu plus de politique, un peu plus de vision.
Un peu plus de vision, je pense que c'est ce qui manque. D'ailleurs, si vous regardez l'histoire récente de l'Europe, même des 10 ou des 15 dernières années, est-ce que vous pouvez me citer un grand discours qui a été fait apportant une vision sur l'Europe? Il n'y en a pas tant que ça. Il y a peut-être le discours de Joschka Fischer à l'université Humboldt. On peut dire il y a peut-être le rapport 95, plus de 20 ans, Schäuble-Lamers, qui offrait une vision qu'on peut contester. Mais enfin, c'était quelque chose, c'était un document important. Il n'y a pas grand-chose. Donc je pense qu'il y a un manque de vision. Il y a un manque, bien sûr, je dirais aussi quand même d'efficacité de l'Europe sur un certain nombre de sujets, qui fait que l'Europe n'est pas très visible. Alors elle l'est. En même temps, on peut dire l'apport de l'Europe est considérable sur quasiment toutes les politiques.
Hein.
évident.
Mais on s'est habitué.
Mais en même temps, ça ne parle pas aux gens. Et si on prend les grands dossiers internationaux, il faut bien reconnaître que sur la Syrie, sur l'Ukraine, l'Europe a été totalement absente. Mais ce n'est pas nécessairement la faute, soyons bien clairs, de l'Union européenne. C'est quand même aussi la faute des États membres de l'Union européenne. Arrêtons d'accuser cette entité-là. Enfin, je crois qu'il y a une autre chose, et c'était très frappant dans le discours de Guy Verhofstadt. Faisons attention aussi de ne pas nous nourrir d'illusions. Et notamment de l'illusion que demain, quels que soient les dirigeants en place, avec Emmanuel Macron, Angela Merkel ou n'importe qui d'autre, on pourrait avoir quelque chose qui ressemble aux États-Unis d'Europe. Ça, c'est une illusion totalement dépassée. Et je pense qu'il faut avoir le courage de le dire. Il faut envisager une Europe politique, une Europe présente, beaucoup plus forte, dans le domaine de la défense, de la sécurité, des grandes politiques structurantes sur les grands dossiers moyen-orientaux, russes, ukrainiens, etc. Mais ça ne veut pas du tout dire qu'on a une sorte de fédération européenne avec un centre anonyme qui décide. Je crois que là aussi, il faut... repenser concrètement ce que ça veut dire qu'une Europe forte aujourd'hui.
Pascal Boniface, pendant sa campagne, Emmanuel Macron n'a pas arrêté de dire que l'Europe devait être plus protectrice. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Alors, on est dans le domaine du social, on est dans le domaine de la défense ou de la sécurité des frontières.
Dans l'ensemble, effectivement, c'est apporter du moins un sentiment de sécurité plus grand. Or, pour l'instant, il y a un sentiment d'insécurité qui est fort, aussi bien d'ailleurs en termes stratégiques qu'en termes économiques. Pour mes parents, il était normal, presque obligatoire, que ma vie soit meilleure que la leur. Je ne suis pas sûr que je puisse dire cela à mes enfants. Donc il y a un peu un sentiment de crainte de l'avenir qui frappe de nombreux milieux et qui crée un sentiment d'insécurité. On voit qu'il y a des guerres aux alentours, etc. Et donc là, l'Europe, pendant très longtemps, on pouvait dire l'Europe c'est la paix, mais ça suffit plus, parce qu'il y a quand même des troubles extérieurs qui sont aussi importants. Et là, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure aussi, je trouve que M. Juncker, lorsqu'il a dit le lendemain de l'élection d'Emmanuel Macron, il faut quand même faire attention, la France doit serrer la ceinture, etc., a vraiment envoyé un message.
Bienvenue, pour le moins.
Il était quand même, pour le moins, maladroit. Pour le moins, pour dire, bon, ok, vous avez voté, et maintenant, de nouveau, faut vous servir. C'est typiquement le genre de message anxiogène qu'il ne fallait pas envoyer, parce que ça va accroître l'inquiétude, le sentiment d'insécurité des Français. Donc l'Europe doit apporter, l'Europe ne peut pas apparaître comme une sorte de garde-chiourme qui ne donne pas beaucoup de choses positives et qui fait des rappels à l'ordre constants alors qu'on a plutôt besoin de l'inverse.
Alors, mais comment on transforme cette Europe où on a besoin de l'inverse, comme vous venez de l'expliquer, Pascal Boniface, en une Europe qui soit, je dirais, un peu mieux comprise par les citoyens et les Européens? Nicolas Tenzer.
Je pense qu'il y a des lignes déjà dans la conférence de presse entre Emmanuel Macron et Angela Merkel qui sont apparues. Je dirais notamment sur un certain nombre de mesures, enfin, ou pistes de travail, des mesures anti-dumping. C'est-à-dire finalement, l'Europe, c'est pas une Europe passoire, c'est une Europe puissante, c'est aussi une Europe qui se protège, parce que ce n'est pas uniquement une zone de droit, ça doit être une zone de droit et de valeur libérale, mais c'est aussi une Europe de puissance, puissance économique, puissance militaire. Deuxièmement, sur tous les sujets liés, par exemple, à la directive du travail pour les travailleurs détachés, là aussi, je dirais, il y a quand même des normes sociales européennes qui doivent être travaillées. Et ce qui est très frappant, c'est qu'on a l'impression que l'Allemagne aujourd'hui est prête à faire des avancées sur ce sujet. Alors on dira pas une Europe sociale avec un salaire minimum élevé, mais quand même considérer qu'il pourrait y avoir une sorte de salaire minimum européen. Je pense que ça, c'est quand même une avancée déterminante. Troisièmement, également dire renforçons tout ce qui est moyen de coordination dans la lutte contre le terrorisme. Et enfin, avançons faire l'Europe de la défense. Parce que, certes, l'OTAN, c'est très important, mais il ne peut pas y avoir que l'OTAN. On a besoin d'une zone d'Europe de sécurité et de la défense, complémentaire avec l'OTAN, différente, et cela, encore une fois, d'autant plus qu'on est dans une zone d'incertitude majeure par rapport aux États-Unis.
Est-ce que vous croyez que c'est ce que attendent d'abord les citoyens européens ?
Ah ben, ils attendent d'abord, je crois, tout simplement, moins de chômage, plus de pouvoir d'achat, et moins de menaces de l'extérieur, bien sûr, que ce soit en termes de risques terroristes ou de risques pour la paix, parce que quand même, pour la première fois, il faut le rappeler, la guerre est de retour au cœur de l'Europe. Alors, c'est peut-être pas l'Union européenne, mais c'est l'Ukraine, et c'est à 3 heures d'avion de Paris. C'est une guerre chaude, c'est une guerre qui avait plus de 10 000 morts. C'est l'agression d'une puissance extérieure.
Il y a eu la guerre dans l'ex-Yougoslavie à 2 heures d'avion de Paris.
Oui, voilà. Alors, mais c'était encore une fois autre chose. C'était quelque chose, malgré tout, d'un tout petit peu différent. Enfin, c'était comme la fin d'une période de transition. Là, on pensait avoir la paix, mais non, la guerre est de retour.
Carrefour de l'Europe aux entretiens européens. D'Anguin, nous allons faire une petite pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde, le temps de prendre connaissance des dernières nouvelles de la planète. A tout de suite.
Spotkania europejskie.
Rozumiem tu Europę.
Rozkrucia Europy.
Stawrodromy z Europy.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquelles.
Rebonjour, Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Si vous nous rejoignez, nous sommes à Anguin, dans le cadre des entretiens européens d'Anguin, organisés par l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, et auquel Carrefour de l'Europe s'est tout naturellement associé. Après avoir vécu des moments critiques avec l'élection d'Emmanuel Macron, l'Europe reprend espoir. L'échec de l'extrême droite française après celui de Norbert Hofer en Autriche et celui de Geert Wilders aux Pays-Bas stoppe pour le moment, en tout cas, la vague populiste sur le continent. Mais il reste à l'Union Européenne à regagner en crédibilité auprès des Européens. Pour cela, l'Europe doit être plus protectrice, comme le rappelle sans cesse le nouveau président français, afin de réconcilier les citoyens avec la mondialisation. Ce n'est pas le moindre de ces nouveaux défis et c'est loin d'être le seul. Je vous représente les invités qui nous ont pris place autour des micros RFI. Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Nicolas Dungan, senior fellow au sein du programme des relations transatlantiques de l'Atlantic Council à Washington. Nicolas Tenzer, président du Centre d'études et de réflexion pour l'action politique et par ailleurs professeur à Sciences Po Paris. Alors parmi les pistes qui ont été évoqué au lendemain de l'élection d'Emmanuel Macron lorsqu'il s'est rendu à Berlin, il y a eu l'idée d'approfondir la zone euro, la gouvernance de la zone euro. On a parlé d'un budget de la zone euro, d'un fonds monétaire européen, d'un ministère des finances de la zone euro. C'est un peu ce qu'on disait, c'est-à-dire redonner de la politique alors qu'il y avait avant tout des règles à ne pas dépasser, par exemple les 3%. Donc redonner de la politique, refaire de la politique, redonner de la souplesse, de la flexibilité et peut-être un peu moins rigoureux sur les règles et les normes, Nicolas Dungan.
D'abord, l'euro existe depuis le 1er janvier 1999 et on est loin d'en avoir tiré toutes les conséquences encore. Le problème, c'est que on ne peut pas, en tant que pays souverain, la France par exemple, renoncer à avoir sa propre monnaie et en même temps faire un pooling de sa monnaie sans faire le pooling de tout ce qui va autour. Alors, il y a une banque centrale, mais en ce qui concerne les aspects fiscaux, en ce qui concerne les aspects notamment budgétaires, et cela, c'est l'une des questions, la fédération de l'endettement. Donc, en fait, ce qu'il faut en Europe, c'est une Europe clairement à deux vitesses, et il la faut, d'ailleurs, depuis ce 1999, qui fait maintenant il y a presque 20 ans. Ce renforcement de la zone euro, c'est un renforcement d'une gouvernance commune, mais au sein des pays qui veulent une Europe plus unie. Autour, et ça aurait pu éviter d'ailleurs le Brexit, il faut une zone de libre-échange qui ressemble beaucoup plus à l'ancien marché commun. Et si vous voulez, ce qu'on a vu, et je rebondis là sur ce que disait Nicolas Tenzer tout à l'heure, dans la conférence de presse d'Angela Merkel et d'Emmanuel Macron à Berlin, on a entendu pour la première fois une volonté politique d'aller au-delà des problèmes administratifs. Je veux dire par là que les deux ont dit, et Macron surtout, qu'il était possible de renégocier les traités, qui depuis 2005 et le refus de la France, du peuple français dans le référendum sur la constitution de l'Europe, changer les traités, excepté le traité de Lisbonne, c'était quand même quelque chose d'intouchable. Et là, l'idée c'est de dire, on a une volonté politique qui est pour, par exemple, mieux protéger les Européens et que ça nécessite un changement de traité, n'ayons pas de tabou à cet égard et faisons ce qu'il faut pour faire avancer le projet européen au 21e siècle.
Nicolas Tenzer, est-ce que la France peut être crédible en Europe si elle-même, elle aborde l'Europe en position de faiblesse avec des déficits réguliers, une dette qui s'approfondit?
Je pense que ça a été le problème majeur de François Hollande dans sa relation avec l'Allemagne, qui a été relativement bonne sur des grands sujets de politique étrangère, avec une forte entente, notamment dans le cadre des accords de Minsk ou sur d'autres sujets, mais en même temps avec une manque de crédibilité. Et là, c'est pour ça qu'Emmanuel Macron y a beaucoup insisté, y compris lors de sa conférence de presse avec Angela Merkel. Nous avons besoin de réformes structurelles. On sait que l'une de ses premières mesures va être la réforme du marché du travail, notamment. Il faut qu'on ait des entreprises plus compétitives, plus faciles à créer, ayant moins de charges, etc. Et donc ça, c'est quelque chose qui va pousser très vite, parce qu'il considère que la légitimité internationale nationale de la France repose sur son succès économique. Mais en même temps, si j'ose dire, il faut une solidarité qui s'exprime au travers de l'Europe et par rapport, je dirais, à la question de l'euro. L'idée, quelle est-elle ? L'idée, c'est de dire l'euro fonctionne mal parce que les pays membres de la zone euro sont dans des situations économiques, soit structurellement, soit conjoncturellement, très différentes. Il y a beaucoup ce qu'on appelle en économie de chocs asymétriques qui pèsent sur cette zone euro, des pays qui sont dans des situations effectivement de déficit. Si on demande et on inflige plutôt la même potion thérapeutique lourde, parfois brutale, à tous les pays en même temps, ça accroît les déséquilibres. Donc l'idée, c'est d'avoir un budget à un certain moment, financé de diverses manières, qui compense ces chocs et permette de donner dans des pays d'ajustement aux difficultés momentanées une capacité de se remettre à niveau pour que la zone euro fonctionne très bien sans pénaliser les populations et sans risquer ce risque justement de rejet de la zone euro, de rejet de l'Europe, parce que la zone euro est perçue uniquement comme une contrainte, une sorte de corset, de forceps qui fait le malheur des peuples. Et ça, ce n'est pas possible.
Parce que Boniface, le bon deal franco-allemand, c'est la France qui se réforme et puis l'Allemagne qui investit pour éponger ses excédents.
Bah oui, effectivement, c'est un peu du donnant-donnant finalement, parce qu'il y a des requêtes de l'Allemagne de demander à la France d'être crédible. Et c'est vrai, et là je rejoins Nicolas Tenzer, c'est que Hollande a perdu une grande partie de sa crédibilité sur le plan économique face à l'Allemagne, parce qu'il a promis des choses qu'il n'a pas fait. Et en même temps, il a promis des choses aux Français qu'il n'a pas fait non plus. Donc il a promis à l'Allemagne des réformes économiques qu'il n'a pas entrepris, et il a promis une relance aux Français qu'il n'a pas réalisée. D'où c'est un peu les raisons, je pense, de son échec. Et en même temps, une fois encore, les Allemands, dans leur propre intérêt, et Helmut Schmidt, de son vivant, a maintes fois alerté ses compatriotes sur ce point, c'est pas seulement une question de morale, ce n'est pas l'intérêt national de l'Allemagne d'apparaître comme un pays dominant l'Europe et un pays qui, du coup, serait perçu comme étant inamical ou comme étant uniquement voué à la contrainte et à donner des règles aux autres. Donc, c'est là où il y a les bases d'un accord. Effectivement, si Emmanuel Macron est capable de dire à Mme Merkel, je vais faire les réformes nécessaires pour relancer la machine économique, parce que, bien sûr, nous ne sommes pas crédibles avec un déficit commercial qui augmente, avec un taux de chômage qui augmente, avec un déficit budgétaire qui reste, malgré toutes les promesses. Comment peut-on demander des efforts aux Européens, alors que nous sommes incapables de passer sous la barre des 3% que l'on réclame aux autres depuis
longtemps ? Alors que la moyenne européenne est à 1,5%.
Voilà, et donc, je comprends que des pays moins nombreux, moins importants que la France, se disent, mais pourquoi s'il y a ce deux poids deux mesures ? Donc, nous devons être plus cohérents. Mais en même temps, et une fois encore, il y a quand même, on voit bien, une sorte de malaise social très profond dans ce pays. Et on ne peut pas, aujourd'hui, se faire élire en promettant des larmes, de la sueur et du sang. Et donc, il faut un peu autre chose. Il y a besoin d'une relance, il y a besoin de faire diminuer le taux de chômage, il y a de faire que le nombre de travailleurs pauvres diminue, que le nombre de femmes à la tête de familles monoparentales qui doivent accumuler les petits boulots pour essayer de faire bouillir la marmite diminue également. Il y a quand même beaucoup de souffrance sociale dans ce pays dont il faut tenir compte. Et bien sûr, dans nos milieux, et là je nous mets tous les quatre dans le même bain, le fait de se féliciter que Marine Le Pen n'ait fait que 5% au premier tour à Paris est en même temps un piège. Parce que Paris n'est pas représentatif, c'est à tous les sens du terme, du reste du pays. Donc il faut que les gens qui commentent et qui décident à Paris tiennent un peu compte également de ceux qui ne sont pas à Paris.
C'est ce qu'a dit juste Emmanuel Macron sur un point, et il a dit, finalement, notre principal défi, enfin celui, le sien, celui de son gouvernement, et peut-être celui de tous les Français, c'est de faire que dans 5 ans, il n'y ait plus de raison pour que des Français votent pour les partis extrêmes, gauche comme droite d'ailleurs, et ça je crois que c'est le défi. Et le jour de son installation, enfin même avant, le jour où il était élu, le 7 mai, c'est ce qu'il a dit le soir, je trouve que j'y étais, au Louvre, devant ses supporters. Et donc ça, je crois que c'est ce message-là. Et ce message-là, effectivement, il passe d'abord par une amélioration de la situation économique, par l'espoir dont on a beaucoup parlé, par la visibilité, par le sentiment de protection, et ce n'est pas gagné, hein, mais c'est le défi numéro 1.
Alors, c'est vrai que Emmanuel Macron, par exemple, à l'inverse de François Hollande, a relativement peu promis.
Oui, il n'a pas fait le discours du Bourget, ouais. Effectivement, et donc c'est un peu la différence, et c'est le malentendu fondamental qui a plombé le quinquennat de François Hollande. Emmanuel Macron ne part pas sur les mêmes bases, effectivement.
Il a identifié des dossiers à répétition en parlant de la valeur du travail, la valeur de l'école. Et l'école en France pose un grand problème parce que il y a énormément de gens qui font leurs études et qui ne savent pas, qui ne sont pas aptes à être employés, qui ne sont pas formés. Donc contrairement à l'Allemagne ou à la Suisse, où il y a quand même une formation dès le plus jeune âge, dès le collège pratiquement, et Macron, je crois, a mis l'accent, en mettant l'accent sur l'école et le travail. Si vous n'auriez pas 20% de chômage des jeunes dans ce pays, si tous ces jeunes-là étaient prêts à aller travailler le lendemain. Donc il y a une inadéquation entre la demande et l'offre sur le marché de l'emploi et pas seulement un problème du code du travail.
Carrefour de l'Europe, nous sommes à Enghien dans le cadre des rencontres européennes d'Enghien avec Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, avec Nicolas Dungan, Senior Fellow au programme des relations transatlantiques de l'Atlantic Council à Washington, je l'ai dit, avec Nicolas Tenzer, président du Centre d'études et de réflexion pour l'action politique. Alors avec un instant avec Pascal Boniface, on évoquait tous ces gens qui n'étaient pas autour de cette table, les Français un petit peu, qu'on n'entend pas systématiquement à la radio, à la télévision. Alors qu'en pensent les Européens? On les a pas tous rencontrés. Qu'en pensent les Français? On les a pas tous rencontrés. Mais Félicia Schröder en a rencontré quelques-uns à la gare Saint-Lazare.
C'est justement que l'Allemagne s'impose, et nous aussi, avec elle.
Le plus grand défi pour l'Europe, c'est d'avoir une cohésion. On arrive à construire vraiment une Europe qui va dans le même sens. Voilà.
Uniformiser toutes les lois. C'est indispensable pour que ça puisse continuer. Sinon, aussi bien la finance que la régulation du travail, on va droit dans le mur en klaxonnant, quoi.
Tout dépend de la politique de conduire, mais étant donné que c'est un candidat qui a toujours été dans le sens de l'Europe, je dirais que son élection va booster les choses et va continuer dans le sens où c'était, c'est-à-dire une politique d'ouverture et une politique de mise en avant de l'Europe.
Le grand défi pour l'Europe, je sais pas du tout, mais que ça aille mieux, ça m'étonnerait largement, hein, parce que la France, elle est déjà foutue, en fait, entre guillemets, donc pour la relever, va falloir des miracles, entre guillemets, et ça va pas être possible.
Les grands défis, c'est l'immigration en masse, c'est ça qui cause les problèmes.
Qu'on résout le problème des immigrés, je veux dire des Syriens, des problèmes, ou qu'on puisse leur donner du travail, qu'on s'occupe pas que de telle façon qu'ils soient délaissés, j'allais dire dans les rues, dans la pauvreté, qu'on résout vraiment le problème de l'Europe solidaire.
La problématique des migrants, du chômage et puis des différences sociales entre des gens qui vont très bien et beaucoup de gens qui vont mal.
Avoir un peu plus d'humanité.
Parce que le ministre, on entend bien dans ce qu'on vient d'entendre, ces propos recueillis un peu à la volée par Félicia Schröder, à la fois l'espoir et quand même l'inquiétude.
Ah oui, effectivement, on est vraiment au carrefour là, dans la mesure où, non pas de l'Europe, mais des sentiments, puisqu'il y a à la fois effectivement, parce qu'il y a des inquiétudes, il y a l'espoir. Et c'est vrai qu'Emmanuel Macron incarne cet espoir, d'un changement, d'une part parce que son tempérament est optimiste, mais en même temps, on voit bien que son taux d'approbation est quand même moins élevé que les autres présidents qui l'ont précédé. Donc il y a quand même un très grand scepticisme de la part des Français, parce qu'on leur a tellement promis. Nicolas Sarkozy a promis beaucoup de choses qu'il n'a pas faites. François Hollande a promis beaucoup de choses qu'il n'a pas faites non plus. Et donc les Français deviennent un peu sceptiques. D'où d'ailleurs l'importance du vote protestataire et la déshérence des partis, puisqu'ils se disent, bon, on nous a promis ici, on a promis ça, et en fait rien n'est venu. Et effectivement, il y a toujours un taux de chômage des jeunes extrêmement important, un taux de pauvreté qui est toujours important. Et donc, et puis, on est quand même un pays extrêmement pessimiste. Et ce n'est pas le pessimisme de la lucidité, c'est le pessimisme vraiment qui nous empêche d'avancer. Ce pessimisme devient un facteur inhibant pour l'initiative et pour que le pays se relance. Alors, espérons que tout d'un coup, les choses commencent à aller mieux. Peut-être qu'il suffit des fois des signaux imperceptibles qui peuvent paraître ridicules, mais si le 13 septembre, le CIO attribue les Jeux Olympiques à Paris, à la France, ça sera un signal positif qui sera donné, un signal de confiance en soi, etc. Et donc, on a un peu besoin de ces signaux pour redémarrer, et l'optimisme, c'est quand même un facteur de croissance.
Et puis, on peut rajouter aussi, dans la même idée, l'exposition universelle de 2025.
Ça sera attribué en 2018.
Un peu plus tard.
La décision vient en 2018, alors que la décision pour les Jeux Olympiques vient dans à peine 3 mois.
Alors, il y a quand même, néanmoins, en Europe, des indicateurs au vert, une croissance qui repart, qui est loin d'être phénoménale, mais quand même, elle repart un tout petit peu, une inflation qui évidemment reste maîtrisée, et puis un chômage qui au niveau européen et pas au niveau français décline petit à petit. On est à 9,4%, on était à 12% il y a encore 3 ans. Nicolas Tenzer, c'est peut-être le bon moment pour réinventer l'Union européenne.
Alors je pense que c'est le bon moment parce que effectivement il y a quelques signaux encourageants. Soyons prudents quand même, encore fragile. Et c'est pas parce qu'on a des indicateurs macroéconomiques globaux qui sont progressivement ouverts que le chômage de masse tel que le connaissons dans notre pays avec 3,5 millions de chômeurs, la grande pauvreté, les phénomènes que Pascal a évoqués tout à l'heure, c'est pas comme ça qu'on va les résoudre. Mais c'est aussi le bon moment pour donner une direction et un cap. Je voudrais une seconde m'y arrêter. Je disais tout à l'heure qu'il y avait deux versions de l'Europe, fondamentalement. L'Europe des droits, ou l'Europe des valeurs, et l'Europe puissance. Le vrai sujet pour un grand discours européen, c'est de tenir aujourd'hui les deux bouts de la chaîne. L'Europe n'est rien sans la réaffirmation de nos valeurs fondamentales. Il est extraordinairement inquiétant de voir que ces valeurs soient menacées par une puissance à l'extérieur, et soient menacées aussi par un certain nombre de discours à l'intérieur de l'Europe. Je citais la Pologne ou la Hongrie notamment, mais aussi à l'intérieur des autres pays européens, parce que effectivement en France, avec un Front National à 33%, on n'est pas rassuré sur la permanence et la solidité de ces valeurs européennes. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les citoyens européens ne savent pas non plus, en termes de vision, où ils sont et pour quelles valeurs ils doivent se battre. Et ça, je pense que c'est aussi l'essentiel du discours des Européens que de le rappeler. Madame Merkel l'a fait de manière extrêmement courageuse lors de la crise des réfugiés. Et je pense qu'il faut lui rendre hommage de l'avoir fait. Et d'ailleurs, il faut bien remarquer qu'Emmanuel Macron a félicité la chancelière pour ce discours. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il y a la puissance. Parce que si on n'a pas la puissance de l'Europe derrière, c'est-à-dire une terre, effectivement, forte en termes économiques, cohérente sur le plan social, plus forte en matière de sécurité et de défense contre les menaces extérieures, capable aussi de dire à des puissances économiques qui nous menacent, soit par le dumping, soit par des politiques commerciales agressives, etc. Eh bien non, écoutez, vous n'êtes pas nos ennemis, nous allons nous battre commercialement avec vous. Le droit que vous nous imposez, les règles que vous nous imposez, eh bien ce ne sont pas les nôtres. Et il faut que l'Europe parle d'une seule voix au sein des grandes instances internationales pour protéger aussi ses habitants. Je pense que ça, ce sont des orientations qu'il faut faire passer, mais et encore une fois, il faut qu'il y ait des dirigeants pour qu'ils les portent. Et je pense que là-dessus, le couple franco-allemand notamment, mais avec d'autres pays, ça ne peut pas être uniquement la France et l'Allemagne, doivent aller dans cette direction-là.
Alors, justement, avec Donald Trump aux États-Unis, Vladimir Poutine en Russie, est-ce que là encore, les indicateurs ne sont pas ouverts pour que les Européens se resserrent et se ressoudent autour de, justement, ce que vient d'évoquer Nicolas Tenzer, les valeurs européennes qui ne sont évidemment pas forcément défendues par Donald Trump, mais encore moins par Vladimir Poutine. Nicolas Dungan.
On peut dire que le phénomène Trump aux États-Unis et le phénomène Brexit en Grande-Bretagne sont dus en partie à un mouvement depuis plusieurs décennies maintenant qui consiste à abandonner l'idée de l'intérêt général. Et certainement l'une des raisons, à part le fait d'être là, que pour lesquelles Emmanuel Macron a pu être élu, c'est qu'en France, on conserve très fortement cette idée d'intérêt général. Néanmoins, le manque de cohérence de Donald Trump n'arrange pas les choses. Et ce qui n'est pas clair, c'est s'il va rester encore 3 ans et 9 mois ou s'il va partir plutôt au bout de 15 jours et combien ces différents scandales, dont certains qu'il a causés à lui-même, c'est auto-infligé pas mal de ses propres problèmes. Néanmoins, le monsieur a tellement peu de jugement, tellement peu de cohérence et tellement peu d'intelligence en ce qui concerne le rôle du président des États-Unis qu'on peut tout craindre en termes d'incertitude. Encore une raison de plus, comme vous l'évoquiez, pour que l'Europe ait une politique cohérente dans tous les différents domaines où il le faut, non pas pour contrer les États-Unis, parce qu'il y a beaucoup d'Américains qui raisonnent et qui ont une même culture politique que beaucoup d'Européens, mais pour canaliser les politiques américaines vers les intérêts partagés entre l'Europe et cette partie-là de l'Amérique, cette partie plus éveillée de l'Amérique et non pas la partie obscurantiste que représente Donald Trump.
Alors j'ai une petite parenthèse, mais Donald Trump sera dans quelques jours en Europe, à Bruxelles et en Sicile. Qu'est-ce qu'il connaît de l'Europe, Donald Trump, en quelques mots ?
Il a un terrain de golf en Écosse. vous dites que c'est une petite parenthèse. C'est une petite parenthèse, mais la question. Mais la réponse peut être une explosion de grande envergure. De toute façon, depuis début novembre et certainement depuis le 20 janvier, le jour de son investiture, où d'ailleurs ces foules ont été de loin les plus grandes qu'on ait jamais vues à Washington de quelque type que ce soit. On se réveille chaque jour en se demandant quelle est la bêtise du jour. Bon, alors là, il a un emploi du temps assez serré, assez dense, et donc il a la possibilité de faire plusieurs bêtises par jour.
Pascal Boniface. Alors, on a compris en écoutant de Nicolas Dungan que, évidemment, dans l'intrabas, elle est plutôt resserrée les Européens. C'est un peu la même chose avec Vladimir Poutine à Moscou.
Pas tout à fait, parce que Vladimir Poutine est un facteur de division de la perception entre Européens. La perception qu'ont la France et l'Allemagne de Poutine et celle qu'en ont, par exemple, la Pologne et les Pays-Baltes n'est pas la même. Non pas, enfin, disons, il n'y a pas une différence sur l'interprétation de sa politique, mais sur les réactions que l'on doit avoir par rapport à cela. Pour des raisons historiques, les pays qui ont subi une domination russe ou soviétique, ou plutôt russe puis soviétique directe, ont une très forte hostilité, alors que s'il n'y a pas une très grande confiance de la part de la France et de l'Allemagne, ces pays se disent qu'il faut traiter avec Vladimir Poutine et que c'est une sorte d'exercice obligé. Et parallèlement, les pays de l'Est sont beaucoup plus atlantistes et pro-américains, les nouveaux venus dans l'OTAN, souvent les convertis récents sont beaucoup plus enthousiastes que ceux qui le sont
même
de longue date.
Même s'ils ont été quelque peu échaudés quand même.
Oui, mais en même temps, on voit très bien que pour eux, c'est Washington et que c'est eux qui ont été les plus inquiets finalement de l'élection de Donald Trump, parce que c'est eux qui comptent le plus sur les États-Unis. Donc là, il y a quand même pas. On peut dire quand même qu'il y a toujours une sorte de séparation de perception entre l'Est et l'Ouest de l'Europe. Ceci étant, normalement, effectivement, et le Brexit et l'élection de Donald Trump devraient être un élément fédérateur pour les Européens, pour se dire que il faut peut-être se préparer à des jours un peu différents et que les recettes anciennes ne vont pas fonctionner constamment. Et que si nous avons un lien fort avec les États-Unis, nous ne sommes pas sur le même continent et que l'on peut avoir une cohérence avec eux, mais en même temps sans être forcément sûr. Et puis, voyons les choses en face. L'époque où les pays européens étaient dépendants pour leur sécurité des États-Unis est révolue. Il n'y a plus, même si la Russie est inquiétante sur bien des points, plus personne ne pense que les chars russes vont venir sur la place de la Concorde, comme on le disait encore rappelez-vous, en 1981, juste avant l'élection de François Mitterrand. Donc l'Europe a les capacités, et avec Donald Trump, on peut dire qu'au contraire, loin de nous protéger, les États-Unis peuvent nous entraîner dans les catastrophes. On l'a d'ailleurs déjà vu avec George Bush en 2003, où loin de protéger les pays européens, les États-Unis nous ont plongés dans une catastrophe dont nous payons encore le prix aujourd'hui. Donc il y a tous ces éléments, mais pour cela, il faut quand même non seulement des intérêts communs, mais il faut surtout que quelqu'un prenne le leadership. Et ce leadership ne peut être que franco-allemand. Il ne peut y avoir qu'une initiative franco-allemande pour lancer cela avec d'autres pays. Ne pas penser qu'une fois qu'on est d'accord entre Berlin et Paris, tout est fait. Il ne faut pas oublier les autres pour ne pas les vexer et puis on a besoin d'eux. Mais il faut effectivement qu'il y ait un démarrage franco-allemand et très vite faire une union, une solidité avec les Espagnols, les Italiens, les Belges qui sont prêts à suivre. Et pour ça, il faut peut-être profiter de ce moment historique où les Russes s'inquiètent, mais que l'on peut quand même traiter avec eux, ce que l'on fait d'ailleurs, et que, comme on n'a plus de certitude sur la garantie américaine, l'urgence de s'auto-organiser entre Européens devient plus évidente qu'autrefois.
Nicolas Dungan, vous voulez rajouter un petit mot, une précision?
Aux États-Unis, il y a beaucoup de pro-européanistes, et il faut en profiter. Donc, justement, ce que disait Pascal Boniface, c'est que l'Europe n'est pas tenue de s'adresser uniquement à Donald Trump. Il y a beaucoup d'autres gens dans l'establishment, que ce soit dans le Congrès, que ce soit des gouverneurs, que ce soit dans le monde économique, que ce soit dans le monde universitaire, des gens qui sont des sympathisants avec l'Europe. Et si l'Europe arrive, par le biais de ce couple franco-allemand rénové, à exercer une forme de leadership, elle sera très bien écouté dans les cercles, dans beaucoup de cercles importants aux États-Unis.
Nicolas Tanzer, on n'a pas évoqué, ou rapidement, le Brexit, une opportunité pour resserrer les Américains, les Européens, pardon.
Bien sûr, mais c'est à la fois une opportunité, mais c'est aussi, soyons parfaitement clairs, ce n'est pas la fin de notre coopération en Europe avec le Royaume-Uni. Surtout pas. C'est-à-dire que je pense qu'il est très important de dissocier les négociations sur le Brexit, qui vont être des négociations vraisemblablement assez dures, assez difficiles, et sur lesquelles il ne faut pas laisser l'impression que le fait d'être en dehors, c'est finalement aussi intéressant que d'être dedans, et en même temps la discussion sur l'Europe de la défense et de la sécurité, pour laquelle le Royaume-Uni, qu'il soit dehors ou dedans, est une composante absolument essentielle. Et je crois que là-dessus, il y a vraiment une forme de déliaison à opérer qui est totalement indispensable, mais bien sûr qui va devoir resserrer les Européens et les Américains. Sur un autre point, je voudrais quand même ajouter qu'il y a aussi, dans ce que certains ont dit lors de l'élection de M. Trump, quelque chose d'assez important. On a dit, mais finalement, aujourd'hui, Mme Merkel, c'est la reine du monde libre, en quelque sorte. Alors aujourd'hui, on est assez content parce qu'il y a à la fois un roi et une reine. Enfin, Dieu merci, un chancelier, un président démocratique. Le vrai sujet, c'est que aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire diriger le monde libre? Et je crois que c'est cette définition même du monde libre qui se pose aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire que ces valeurs que nous sommes en train de défendre? Comment nous sommes capables de travailler avec des pays qui ne partagent pas ces valeurs? La question de la Russie se trouve posée. Je crois qu'il faut être totalement ferme personnellement par rapport à la Russie, ce qui ne veut pas dire ne pas discuter avec la Russie, voir s'il y a des possibilités d'aller en commun, mais sur une position de force et sur une position qui n'est pas celle de compromis ni sur l'Ukraine, ni bien sûr sur la Crimée qui est partie de l'Ukraine, ni sur l'intervention et les crimes de guerre commis par la Russie et le régime Assad en Syrie. Je crois que ça, il faut être très clair. Mais en même temps, essayer de bien définir quelle est l'architecture que nous voulons dans les 20 ans. Et cette architecture-là, c'est à l'Europe de le proposer. Travaillant, je crois, Nicolas Dungan a tout à fait raison d'y insister, avec tous ceux qui, républicains ou démocrates, considèrent qu'on ne peut pas abandonner l'Europe. Parce qu'après tout, ce désengagement relatif de l'Europe, il a commencé avec la présidence Obama. Je veux dire, c'est pas Trump, d'une certaine manière, c'est pas une nouveauté. Et donc là aussi, essayons de voir comment nous pouvons travailler en Europe et forger ce que j'ai eu un jour appelé l'international des libéraux. C'est-à-dire de ceux qui sont sur ces grands systèmes de valeurs pour la défense du monde libre et des valeurs de lumière.
Eh bien, merci Nicolas Tanzer, c'est le mot de la fin. Merci à tous les trois d'avoir été au carrefour de l'Europe. Pascal Molifa, je rappelle votre dernier livre, Comprendre le monde, chez Armand Collin. Nicolas Tanzer, il est un peu plus ancien, mais il est toujours disponible. La France a besoin des autres, il est édité chez Plon. Réalisation Mathias Taylor avec la complicité de Félicia Schroeder. Vous pouvez réécouter cette émission sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone via RFI.fr ou les applis mobiles de RFI, elles sont gratuites. On reste en contact via Facebook et Twitter. Daniel Desescales, où que vous soyez, en Europe ou dans le reste du monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et tout de suite, un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir. Appelez-nous.